Henri IV, roi très chrétien. Rarement le surnom donné au souverain français et reconnu par la papauté n'aura été aussi approprié. Chrétien, il est assurément, de père catholique et de mère protestante, Henri de Navarre est l'objet d'un désaccord entre ses deux parents sur le choix de sa religion. À l'âge de 9 ans, il en a déjà changé 3 fois. Orphelin de père, il sera dès lors éduqué par sa mère dans la foi réformée, comme nous l'explique l'historien Jean-Pierre Bablon.
Il a été ballotté, si l'on peut dire, de religion en religion. C'est son père qui a commencé à s'orienter peut-être vers la réforme, et puis il a fait un pas en arrière. Sa mère, au contraire, était une femme d'action, de foi, d'intelligence. Jeanne d'Albret est la fille de Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier. Cette sœur de François Ier avait été justement l'une des premières personnes de la cour de France ouvertes aux idées nouvelles. Donc c'est surtout sa mère qui a joué un rôle très important, qui a régi un peu sa religion. À un moment où, devenue veuve, elle a décidé véritablement que ses états de Béarn seraient véritablement des états sous la religion protestante.
Henri IV aura changé 6 fois de religion au cours de son existence. Des va-et-vient entre le catholicisme et le protestantisme au fil des aléas politiques et des guerres de religion qui ravagent alors le royaume de France. La foi d'Henri de Navarre est tour à tour un symbole, un danger ou un enjeu. En 1572, pour rapprocher catholiques et protestants, on négocie son mariage avec la fille de Catherine de Médicis et d'Henri II, la catholique Marguerite de Valois. Le massacre de la Saint-Barthélemy, qui a lieu peu de temps après les noces, l'oblige à se convertir au catholicisme pour échapper à la mort. Il abjurera après son évasion de la cour de France. Catholique ou protestante, la foi d'Henri de Navarre était cependant bien réelle.
C'était un homme qui était profondément attaché à une foi religieuse. Et puis cette foi religieuse, elle était disputée entre les différentes églises qui s'étaient créées et durcies petit à petit. On le sent notamment beaucoup dans la correspondance qu'il a et les rapports qu'il a pu échanger avec Théodore de Bèze, le grand réformé à la suite de Calvin, et qui a eu vis-à-vis d'Henri IV une allure presque paternelle, et les relations entre Henri et Théodore sont tout à fait touchantes jusqu'à la fin. Il était profondément chrétien, il l'a prouvé durant toute sa vie. Et puis, les aléas de la politique ont fait qu'il a pensé que seul à un moment, au moment de la reconquête du royaume après l'assassinat d'Henri III, il a pensé que seul le catholicisme lui permettrait de faire la réunion de tous les Français.
En 1589, le roi de France Henri III est assassiné par le moine Jacques Clément. Sans héritier, la couronne revient alors à son beau-frère et cousin, le protestant Henri de Navarre, qui devient Henri IV. Le royaume s'embrase, les catholiques les plus extrémistes se rassemblent au sein de la Ligue, une organisation qui refuse qu'un protestant monte sur le trône de Saint-Louis. Des villes comme Paris résistent au roi. La reconquête est longue et difficile. L'ultime conversion d'Henri au catholicisme est alors inévitable. Il abjure solennellement le protestantisme le 25 juillet 1593 en la basilique Saint-Denis.
Paris vaut bien une messe, c'est une forgerie, n'est-ce pas ? Il n'a pas prononcé cette parole. En revanche, les mots qu'il a eus vis-à-vis des prélats, avec lesquels il a discuté longuement au moment de l'abjuration de Saint-Denis, après des longues heures de discussion, il a dit « Je mets aujourd'hui mon âme entre vos mains. Je vous prie, prenez-y garde, car là où vous me faites entrer, je n'en sortirai que par la mort, et de cela je vous jure et proteste. » Donc une recherche, bien sûr, de son salut et de la vie éternelle. Et il voulait se faire garantir par les prélats catholiques qu'il aurait la vie éternelle. On lui avait peut-être promise aussi du côté protestant.
La pacification du royaume passe par la réconciliation des Français. L'édit de Nantes, signé le 30 avril 1598, permet la coexistence des deux religions.
L'édit de Nantes a été un travail absolument formidable contre une opinion publique qui était très très divisée sur le projet de réunion. Ces recherches de tolérance, ou plus exactement de coexistence des deux religions, se sont poursuivies depuis Catherine de Médicis. Toutes les guerres de religion se sont terminées par un édit de pacification. Henri a cherché dans cette voie, et sa filiation par rapport à la pensée de Catherine de Médicis doit être revue et solidifiée, si l'on peut dire. Mais enfin, il a voulu véritablement aboutir à une reconnaissance des deux religions. Et le thème même de cet édit de Nantes, dont le préambule est extrêmement important, c'est un des grands textes de l'histoire de France. Le roi, selon ce préambule, a voulu que Dieu puisse être prié par tous nos sujets. Il sonnait d'une même forme, au moins d'une même intention.
Roi de France catholique, comme la majorité de ses sujets, Henri témoigne de son attachement à cette foi en se réconciliant avec le pape, mais aussi en prenant des décisions symboliques.
Henri IV a tout à fait adhéré à la contre-réforme pour ce qui était d'une sorte d'établissement d'une nouvelle spiritualité catholique. Et puis, au stupeur, il a reconnu que les nouveaux ordres religieux avaient un rôle culturel de civilisation extrêmement important. Et à l'encontre des décisions du Parlement de Paris, notamment, il a fait revenir l'ordre des jésuites en France et il a pensé que l'éducation de la noblesse ou des jeunes gens aisés devait être assurée par cette congrégation dont il avait reconnu la qualité intellectuelle et de conscience tout à fait importante, donc la création des collèges de jésuites. Et puis le choix tout à fait extraordinaire par Henri IV d'un confesseur, le père Coton, dans l'ordre de la Compagnie de Jésus. Celui en particulier était bien évidemment lié à la bonne relation qu'il voulait établir avec le pape Clément VIII. C'est le pape Clément VIII, Aldobrandini, qui a prononcé son absolution en 1595. Et un retour d'affection, si l'on peut dire, c'est ce même pape que Henri IV a choisi comme parrain de son fils, Dauphin Louis, futur Louis XIII, pour remarquer que c'était véritablement le pape de Rome qui devenait le parrain du premier dauphin de la famille de Bourbon.
C'est le fils d'Henri IV, Louis XIII, qui consacrera la France à la Vierge en 1638. Poursuivant l'œuvre d'une royauté chrétienne dont son père avait sauvé l'unité et restauré la paix après des années de troubles religieux.